Si vous nous rejoignez sur RFI tout de suite, le journal d'Haïti et des Amériques, c'est avec vous Pauline Glaise, bonjour.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous. À la une, le rejet par les sénateurs du projet de loi sur l'avortement en Argentine. On décrypte ce vote dès le début de cette édition avec notre invité Gaspard Estrada. Au Venezuela, l'Assemblée constituante a voté la levée de l'immunité parlementaire de deux députés de l'opposition accusés d'avoir fomenté un attentat contre Nicolas Maduro. On y revient dans la revue de presse de Stéphanie Schuller. Et comme tous les jeudis, on aura rendez-vous avec Franz Duval pour l'actualité haïtienne. À la une de sa chronique, le taux élevé de factures d'électricité impayées. Bienvenue dans votre journal d'Haïti et des Amériques.
Négatifs 38 votes, affirmatifs 31 votes pour la média sanction en général.
Ce que vous venez d'entendre, c'est l'annonce des résultats du vote au Sénat argentin hier. À la déception des militants pro-IVG réunis sur la place du Congrès en Argentine, cette nuit, les sénateurs ont rejeté le projet de loi sur la légalisation de l'avortement sans condition médicale. Rejet donc par 38 voix contre et 31 pour. Pour en parler en direct avec nous, Gaspard Estrada, directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes à Sciences Po Paris. Bonjour.
Bonjour.
Ce texte qui aurait permis l'IVG pendant les 14 premières semaines de grossesse avait été adopté par les députés en juin. Malgré tout, on pouvait s'attendre à ce rejet des sénateurs.
Oui, on pouvait s'y attendre, puisque déjà, lorsque ce texte était passé dans la Chambre des députés, la marge avait été extrêmement faible. Et donc, compte tenu de la composition du Sénat, on pouvait s'attendre à ce que ce rejet ait lieu.
Les sénateurs sont... le Sénat est plus conservateur que l'Assemblée ?
Oui, comme c'est le cas en France. Mais je pense qu'on peut retenir le fait que ce score a été très serré et que le débat sur l'avortement a évolué en Argentine. On est sorti strictement du cadre moral pour aussi évoquer les questions de santé publique. Et je pense que cela... est un acquis pour les défenseurs du droit à l'IVG.
Et ce débat qui s'est ouvert, il a été marqué notamment par une fracture générationnelle.
Oui, et ça on l'a encore vu lors du vote à la Chambre des députés et au Sénat, puisque ce sont de manière générale des élus plus âgés qui ont plutôt voté contre. Mais il me semble que l'élément central porte sur le fait que c'est à l'origine la société civile qui s'est fortement mobilisée pour obtenir ces avancées. Et c'est grâce à elle que ce vote a eu lieu. Et c'est donc pour cela que je pense que, compte tenu de cette mobilisation, dans les mois à venir, il pourrait y avoir de nouvelles initiatives pour dépénaliser l'IVG.
Quelle initiative, a priori, un nouveau projet de loi sur la légalisation ne pourrait pas arriver au Parlement avant 2 ans ? Quelles initiatives pourraient être prises ?
Bon, je pense que le contexte de l'élection présidentielle de 2019 pourra donner justement l'opportunité aux militants, aux associations, de prendre part à ce débat et de faire en sorte que les candidats à la présidence de la République argentine s'engagent sur des positionnements sur ce sujet.
La presse argentine évoque un souhait de l'exécutif d'inclure un volet pour dépénaliser l'IVG dans la réforme du code pénal qui est en cours de préparation. Est-ce que ça vous paraît faisable et qu'est-ce que cela pourrait dire justement, cette dépénalisation et non pas légalisation ?
Je pense que le président Macri, sur cette question, a joué assez habilement puisque s'il est personnellement hostile à une dépénalisation, voire à une légalisation de l'avortement, il a permis que ce débat ait lieu. Et d'ailleurs, ça lui était utile au printemps dernier, puisque l'Argentine, qui faisait face justement à une grave crise économique au retour du Fonds monétaire international, eh bien, a vu son débat politique évoluer des questions économiques vers les questions de société. Donc, il me semble que jusqu'à présent, Monsieur Macri a réussi justement sur le plan politique à tirer profit de cela. Moi, ma question pose plutôt sur les modalités concrètes justement de ce projet de loi qui pourrait être présenté par le gouvernement et notamment de son caractère assez restrictif. Donc j'espère que dans les mois à venir, les associations de la société civile fera évoluer le gouvernement.
L'Argentine n'a donc pas voté, légalisé l'avortement aujourd'hui. Pourtant, déjà, des chiffres évoqués, acceptés par le gouvernement, même s'ils ne sont pas des chiffres officiels, parlent de 350 000 à 500 000 avortements par an en Argentine. Est-ce que, de fait, il est là, il s'agit simplement d'encadrer cette pratique? Est-ce que le fait que l'Argentine soit le pays du pape François a beaucoup... a aussi joué dans ce vote? Ça a beaucoup été évoqué. À quel point l'Église catholique a-t-elle pesé?
Je pense qu'en effet, l'Église catholique a pesé fortement lors de ce vote, puisque l'Église catholique a même dépêché un évêque pour faire du lobbying auprès des élus, auprès des parlementaires, pour éviter que cette loi soit votée. Je pense qu'en effet, le chiffre que vous avez mentionné, les 300 000 avortements pratiqués qui est informellement en Argentine, illustre justement cette inégalité de la société argentine entre des Argentines riches qui peuvent justement se payer ces avortements clandestins sans avoir à subir les conséquences de cela et des personnes plus pauvres qui, elles, doivent faire face à la justice. Et donc, il me semble que c'est pour corriger cette injustice qu'il faut donc évoluer et faire en sorte que ce débat persiste dans l'opinion publique à l'approche des élections présidentielles de 2019.
Même si le projet de loi a donc été rejeté, vous l'avez souligné, le débat a pu s'ouvrir, débat qui s'ouvre aussi au Brésil. Est-ce que cela peut faire en effet domino en Amérique latine?
Je pense, je l'espère, et d'ailleurs je le constate, puisqu'au Mexique, le nouveau président élu, Andrés Manuel López Obrador, a exprimé son souhait via sa future ministre de l'Intérieur de dépénaliser l'avortement sur l'ensemble du territoire mexicain, alors qu'aujourd'hui l'IVG est autorisé uniquement dans la ville de Mexico.
Merci Gaspard Estrada. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de l'OPALC à Sciences Po Paris. On continue de parler du vote des sénateurs argentins avec Stéphanie Schuller. Bonjour.
Bonjour Pauline, bonjour à tous.
Le rejet du projet de loi sur l'avortement est bien évidemment à la une de tous les journaux du pays aujourd'hui.
Oui, pas d'avortement légal, écrit sobrement Lavos. Le rejet des sénateurs après 5 mois de débat, constate El Diario de Cuyo, alors que le journal Parinados se veut bien plus optimiste. Avec ce titre, rien ne peut arrêter le vent. En effet, renchérit La Nation, le vote au Sénat de Buenos Aires ne clôt pas le débat. Plus rien n'est comme avant, estime même l'éditorialiste qui explique la décision du président Macri d'ouvrir un débat parlementaire sur la question de l'avortement a eu des conséquences irréversibles. Car le sujet n'était non seulement abordé au Congrès, mais aussi par l'ensemble de la société argentine. Que la problématique de l'avortement, un sujet jusqu'ici quasi tabou, se trouve ainsi pendant des semaines sur le devant de la scène du débat public, représente en soi déjà un changement majeur, souligne La Nation. Ce débat a eu pour résultat l'aveu unanime et par tous les secteurs que l'avortement est un problème réel qu'on ne peut ni occulter ni éviter. La question reste maintenant de savoir comment le résoudre, poursuit le journal avant de conclure. Beaucoup d'élus qui ont voté contre la législation de l'avortement se sont dit favorables à une dépénalisation de la femme qui avorte. Quelque chose a déjà définitivement changé.
Au Venezuela, maintenant, l'Assemblée constituante a voté hier sans surprise la levée de l'immunité parlementaire de 2 députés de l'opposition. Juan Riquetens et Julio Borges sont accusés par le régime d'avoir fomenté un attentat contre le président Nicolas Maduro.
Les membres de l'Assemblée constituante, tous proches du pouvoir, se sont exprimés à l'unanimité pour la levée de l'immunité parlementaire des 2 élus, rapporte Ultimas Noticias. Le tribunal suprême de justice a par ailleurs annoncé de disposer de suffisamment de preuves pour demander l'arrestation de Julio Borges, qui se trouve en exil en Colombie, et pour inculper Juan Requesens derrière les verrous depuis mardi. Le journal d'opposition El Nacional rappelle tout simplement les bases constitutionnelles de l'immunité parlementaire. Une disposition, souligne l'éditorialiste, censée garantir l'indépendance du corps législatif face aux tentations arbitraires et autoritaires des autres pouvoirs. En cas de faute grave, de délit ou de crime, un parlementaire peut en effet perdre son immunité, mais seule l'Assemblée nationale, aucun autre pouvoir, a le droit de lever l'immunité de l'un de ses membres, et ceci selon une procédure précise prévue dans la constitution bolivarienne.
Et des milliers de Vénézuéliens continuent à fuir chaque jour leur pays, la crise humanitaire et économique qui persiste.
Ouais, le gouvernement équatorien a d'ailleurs déclaré hier l'état d'urgence humanitaire dans 3 provinces du fait d'un nombre inhabituellement élevé de migrants vénézuéliens qui traversent la frontière avec la Colombie, constate El Comercio. Cette mesure, explique le quotidien, vise à déployer immédiatement de l'aide médicale et sociale. Selon le ministère équatorien des Affaires étrangères, Quito sera épaulé dans cette démarche d'urgence par l'Organisation internationale pour les migrations et le haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés.
Et Stéphanie, a-t-on une idée du nombre de Vénézuéliens qui arrivent chaque jour en Équateur?
Alors, depuis le début de la semaine dernière, ils sont au moins 4200 à demander d'entrer sur le sol équatorien chaque jour, raconte El Universo. D'après les témoignages recueillis par le journal, ces Vénézuéliens sont partis de chez eux en raison de rumeurs selon lesquelles le nouveau président colombien, Iván Duque, pourrait fermer les frontières avec le Venezuela. Du coup, les ressortissants vénézuéliens ont traversé en bus, parfois à pied, la Colombie pour arriver en Équateur. La plupart d'entre eux ne souhaitent d'ailleurs pas y rester, mais veulent continuer leur voyage direction le Pérou, où une importante diaspora vénézuélienne est déjà installée.
Et dans quelles conditions ces Vénézuéliens arrivent-ils à la frontière équatorienne?
Eh bien, selon les reportages et photos, Pauline, publiées en une de nombreux journaux équatoriens aujourd'hui, la situation humanitaire est dramatique. Les images de ces Vénézuéliens amassés sur le pont Rumichaca, l'un des passages frontaliers dans le nord du pays et situé dans la montagne, nous brisent le cœur, s'exclame même par exemple El Telegraph. Des milliers de personnes, du nouveau-né jusqu'au vieillard, doivent affronter le froid. Elles sont fatiguées, souvent malades, n'ont pas à manger ni bu. Elles n'ont plus d'argent et portent ce qui reste de leur vie dans un sac à dos, une petite valise.
Enfin, Stéphanie, direction les États-Unis où l'administration Trump a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie.
Washington est arrivé à la conclusion que Moscou est responsable de l'empoisonnement au Novichok de l'ex-agent russe Sergei Skripal et de sa fille en mars au Royaume-Uni, ce qui présente, selon le communiqué du département d'État, une violation des lois internationales. Les sanctions qui vont entrer en vigueur dans quelques jours porteront sur l'exportation de certains produits technologiques, rapporte le New York Times. Et si la Russie n'arrive pas à prouver que ses autorités n'ont plus recours aux armes chimiques, ces sanctions plus dures pourraient encore suivre, Pauline.
Merci Stéphanie Schuller pour votre revue de presse.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
L'actualité en Haïti avec Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. Bonjour. Franz, en une du Nouvelliste aujourd'hui, les factures d'électricité impayées.
Moins de 14% des clients de l'entreprise haïtienne qui détient le monopole de la commercialisation du courant électrique ont acquitté leurs factures en juin 2018. C'est l'Électricité d'Haïti qui a fait sortir ces statistiques sur ses 200 527 abonnés. Bien entendu, il y a plus de ménages et d'entreprises qui ont accès à l'électricité en Haïti. Il y a les fraudeurs et ceux qui produisent eux-mêmes leur énergie, mais personne ne détient de statistiques fiables sur ces catégories. La seule statistique fiable est celle sur les 27 469 clients qui ont acquitté leur facture en juin 2018. Cela ne représente que 13,69% des clients de l'EDH. Pour le Nouvelliste en éditorial ce jeudi, le cercle est infernal, le cercle est intenable, car quand on ajoute les pertes techniques qui sont légion sur le réseau, le modèle ne génère que des déficits année après année.
Il y a des particularités haïtiennes dans la commercialisation de l'énergie électrique, France.
Les clients des quartiers huppés ne paient pas leurs factures comme ceux des quartiers précaires. En province et à la capitale, c'est le même tableau. Le compte électrique de l'EDH n'est pas payé. Dans le meilleur des cas, il est peu payé par les abonnés. Cependant, si le courant public vendu par l'entreprise n'est pas payé, on n'a jamais autant acheté de génératrices, d'inverteurs, de batteries, de panneaux solaires et de galons de carburant pour produire du courant domestique ou pour les entreprises en Haïti. En un mot, c'est le courant vendu par l'État qui n'est pas payé. Les Haïtiens, même les fraudeurs, souvent paient pour avoir droit au courant électrique. Le nouveliste se demande comment d'ici 12 mois, si toutes les promesses du président Jovenel Moïse sont tenues, on va faire payer tout le pays pour l'énergie électrique disponible et distribuée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
En France, le premier ministre nommé par Jovenel Moïse, Jean-Henri Séan, va se présenter devant le Parlement.
En attendant la présentation de sa déclaration de politique générale, le premier ministre nommé est invité à faire parvenir dans le meilleur délai au secrétariat de la Chambre des députés les pièces exigées par la Constitution haïtienne. Ancien candidat à la présidence, à deux reprises, notaire en vue, exerçant à Port-au-Prince, Jean-Henri Séan ne devait pas avoir de problème avec ces pièces. Mais au Parlement, où la majorité présidentielle est disloquée, tout est politique et un député ou un sénateur peut mettre son grain de sable dans la machine de la ratification à n'importe quel moment.
Merci France Duval et à la semaine prochaine. Tout de suite, le journal de l'Outre-mer. C'est avec la première Caraïbe. Bonjour Maxime Bossonnet.
Bonjour Pauline.
Maxime, en Guadeloupe, la communauté de communes de Marie-Galante doit remettre aux normes l'abattoir de la Grande Galette, l'un des plus importants de l'archipel.
Et il ne s'agit pas là d'un souhait, mais plutôt d'une obligation, obligation officialisée par un décret du préfet. En attendant les travaux, l'abattage d'animaux de boucherie est d'ailleurs purement et simplement suspendu. Les explications d'Éric Bagassien pour Guadeloupe la Première.
Dans l'article 2 de l'arrêté préfectoral, il est stipulé que l'activité d'abattage des animaux de boucherie est suspendue jusqu'à l'exécution des mesures préconisées. Il est également signalé que la communauté de communes exploitante de l'abattoir est tenue d'assurer à son personnel, et cela pendant toute la durée de la suspension, le paiement des salaires et autres indemnités. La communauté des communes n'a donc pas beaucoup de choix, même si à Marie-Galante, on dit étudier le dossier. Le rapport de la mission du ministère de l'Agriculture préconisait déjà l'installation d'une structure mobile et le transfert d'une partie des carcasses sur le moule. Philippe Gustin, dans son arrêté, va encore plus loin en exigeant la fermeture immédiate de la structure d'abattage, façon peut-être de contraindre la communauté des communes à mettre en œuvre les recommandations de la mission.
La Guadeloupe qui est en alerte rouge pour pollution de l'air, des mauvaises conditions dues à la brume de sable mais aussi à l'activité humaine. L'archipel a atteint le niveau 10, niveau très mauvais. La préfecture appelle à la prudence, notamment pour les enfants et les personnes âgées. Il est recommandé aux personnes vulnérables d'éviter de se déplacer et de faire tout effort physique violent. L'angoisse pour une centaine d'étudiants martiniquais à quelques semaines seulement de la rentrée universitaire. Ils n'ont toujours pas d'affectation après la suppression de plusieurs filières sur le campus de Schœlcher. Pourtant, le rectorat avait affirmé chercher des solutions pour pallier à ce manque, ce qui est loin d'être le cas actuellement. Certains devront donc choisir des filières par défaut ou se diriger vers des campus de l'Hexagone. Pour Michel Tondelier, maître de conférences, beaucoup de disciplines étaient pourtant nouvelles en Martinique.
Les filières qui manquent à l'appel, il y en a une qui est emblématique, celle de sciences sociales. Pourquoi ? Parce qu'elle était innovante, elle n'existe pas en Martinique ni en Guadeloupe. Ce qui fait que les jeunes qui veulent faire de la sociologie, de l'anthropologie, qui veulent s'initier à ces disciplines, qui peuvent ouvrir vers d'autres disciplines, ben sont obligés finalement de quitter le territoire. Une autre filière qui avait bâti un projet innovant, même un projet d'excellence, c'était la filière d'histoire, qui finalement, à la dernière minute, a dû transformer son offre de formation innovante au prétexte que ça coûtait trop cher. Et l'étude de dossier montre que les modifications qu'on leur a demandé de faire, finalement, reviennent plus cher que ce qui était prévu au départ. Donc là, je peux prendre date avec vous. Dans un an, deux ans, on va sans doute apprendre que d'autres formations vont fermer, d'autres étudiants vont être sur le carreau. Pourquoi ? Parce qu'on aura mal géré cette offre d'accréditation.
Michel Tondelier, interrogé par Martinique la Première. C'est la fin de ce journal. Bonne journée à tous. Et à demain.
Merci, bonne journée à vous Maxime Bossonnet. Merci d'avoir suivi ce journal d'Haïti et des Amériques.